Tu préfères que je t'appelle et que je te pronomme comment dans le salon?
Oh ouais. Ah, dans le salon, comme tu veux. En vrai, elle, c'est très bien. Il, si tu le sens, voilà.
Et au niveau du prénom?
Ah, Payeur. That's the only name. Quand j'étais à l'école primaire, voilà, je jouais, j'aimais beaucoup être la fée dans le groupe. Toujours un rôle de fée, de princesse, de sorcière. Et ce qui était surtout très remarqué à l'époque, c'était que bien sûr, j'étais qu'avec des filles. Donc voilà, je recevais beaucoup de réflexions là-dessus. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que pour moi, j'étais comme elle, me qualifiant de fille manquée à tout va. Fille manquée, à l'époque, je l'utilisais pour dire que je pensais que j'aurais dû être assignée fille à la naissance et je me demandais bien pourquoi j'avais cette apparence-là qui ne me semblait pas correspondre à la version de moi que j'étais dans ma tête, en fait. Et je me mettais des torchons blancs sur la tête pour faire comme si j'avais de très longs cheveux. Et puis, je me promenais comme ça. Pas à l'école, bien sûr. J'aurais bien aimé. Mais donc, pour moi, c'était ça, être fille manquée. C'était pas correspondre, en fait, au genre qui m'était assigné à la naissance puisque je me sentais plus fille que garçon. Un jour, j'ai décidé de venir maquiller au lycée parce que c'était moi et parce que j'étais dans une ère de ma vie où j'aimais beaucoup le rouge à lèvres rouge avec du mascara et je trouvais ça chouette, puis je trouvais que c'était moi. Donc j'ai décidé d'arriver comme ça au lycée et puis une heure est passée et puis on m'a dit de me retirer, en fait, de sortir de classe et de venir enlever mon maquillage parce que c'était jugé provocant qu'un garçon, à l'époque, se maquille, mette un rouge à lèvres rouge. Voilà, c'était un mercredi matin, je m'en souviens. Je me souviens aussi qu'une des professeurs du lycée m'avait suivi dans les toilettes et s'était excusée, m'avait dit qu'elle aimerait que les choses changent, qu'elle aimerait que les choses avancent, mais malheureusement, c'était comme ça ici, dans cet établissement. Ça m'a marqué parce que j'ai beaucoup pleuré, parce que je me suis dit, mais si rien que du rouge à lèvres rouge choque, je sais pas comment on va faire pour avancer. Quand j'étais en Vendée, je me souviens, j'idéalisais beaucoup Paris. Donc j'ai commencé à chercher des écoles et quand j'étais acceptée dans l'école dans laquelle je suis, ça a tout chamboulé. Parce que je me suis dit, mais waouh, là je vais pouvoir être moi. Là je vais pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme moi. Donc en fait, je nourrissais beaucoup d'espoir dans la ville de Paris de m'apporter cette communauté tant recherchée de personnes qui me ressemblent, de personnes qui assument leur identité, qui s'expriment et qui poussent encore les limites de l'expression de genre, en fait. Et je me souviens de ma première boîte, justement, où je me suis vue être dans un état un petit peu d'extase, de me dire « Waouh, ce sont des personnes qui écoutent des artistes que j'adore !» Commencer cette vie nocturne avec une boîte gay, c'était magnifique. Je voyais plein de personnes tellement heureuses et tellement elles-mêmes. Et je me souviens que je voyais des personnes qui me ressemblaient. Au départ, les deux premières semaines, je me suis sentie très à ma place. Et puis, j'ai commencé à remarquer que j'étais pas comme les garçons gays, j'étais pas exactement comme eux. Je pense qu'à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me séparer de cette identité de garçon gay, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je commence à me regarder à travers mes propres yeux, en fait, et non plus à travers les yeux d'une autre personne gay en face de moi. Parce que je pense que c'était aussi lié à mon envie de plaire, à me sentir aussi désiré. Sauf que pour moi, la seule manière d'être désiré, c'était de ressembler à ce garçon gay. Sauf que moi, n'étant pas homme, comment être désiré tout en étant non plus pas femme? Et donc, c'était un petit peu la question de me dire, mais si je ne suis ni homme ni femme, où est-ce que j'appartiens, en fait? Qui va m'aimer dans ce cas-là? Quand j'étais seule dans mon appartement, je me disais, mais qui suis-je réellement? Et qu'est-ce qui cloche avec moi? Quel est mon problème? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Est-ce qu'il faut que je me recoupe les cheveux? Est-ce qu'il faut que je commence à aller voir plein de monde et que je commence à relationner avec beaucoup de personnes pour trouver une valeur, en fait, aussi, je me disais, peut-être. Alors qu'au final... pas du tout, et puis j'ai compris plus tard, au final.
Alors, dis-moi, je t'écoute.
Alors, j'avais envie, donc ça fait très longtemps que j'ai pas recoupé mes cheveux, parce que je voulais laisser pousser justement, parce que je tiens beaucoup à la longueur, juste pour que ce soit plus élégant, un peu peut-être aussi féminiser le visage si possible.
Bien sûr.
Voilà, ce serait vraiment les faire chapeau.
Super.
Merci.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reformuler, puis après, on va enchaîner.
J'ai commencé à avoir plus de représentations puisque la série Euphoria est arrivée avec l'actrice Hunter Schafer qui joue Jules dedans. Donc une actrice elle-même transgenre qui joue une jeune adolescente transgenre également. Et je me suis tout de suite sentie connectée à ces personnages, à ces artistes et me dire « Waouh, mais c'est vraiment qui je veux être en fait. Mais comment devenir comme cette personne ?» J'ai commencé à me questionner, à me dire « Mais je m'associe quand même beaucoup et depuis ma jeunesse au genre féminin. est-ce que ce serait pas quelque chose que je pourrais explorer? Voilà, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions, à me genrer également au féminin. Et donc, en fait, en me genrant au féminin, tout de suite, je me sens vue, je me sens comprise, je me sens entendue. Et c'était le moment est venu pour moi d'emprunter cette voie, finalement, de me lancer dans cette transition. Et avec toute la représentation que j'avais eue, je pouvais enfin commencer à me trouver et à m'exprimer comme je souhaitais.
Du coup, par rapport à la perte,
ouais.
Moi, ce que je propose, c'est d'éviter l'effet carré, tu vois.
Ouais.
Voilà. Pour cela, moi, je te propose plutôt de faire un effet pointu.
J'ai, dès mon enfance, en fait, trouvé un nouveau nom que j'utilisais à l'époque comme nom de scène. C'était Payeur Sepp. Voilà. Ensuite, j'ai enlevé le nom de famille et puis j'ai juste gardé Payeur. J'ai ensuite appris qu'il voulait dire bûcher funéraire en anglais, ce qui est très sombre, mais qui pour moi définit le fait que je brûle un peu mes insécurités sur le bûcher, je brûle tout ce qu'on m'a appris sur le bûcher et je me réinvente et je retrouve une lumière et je retrouve mon feu, je retrouve ma flamme. Mon identité est assez fluide en fait, mon genre est assez fluide. Je me définirais comme personne non-binaire transféminine. Je me sentais parfois ni homme ni femme, mais plus souvent femme quand même. C'est-à-dire que j'aime bien varier les pronoms, mais je vais me réveiller certains jours et il faudra que ce soit uniquement le féminin qui sera employé pour me définir, parce que sinon je vais pas me sentir bien du tout. Et je pense que dès que j'ai découvert le terme queer, je l'ai tout de suite assigné à ma personne, puisque en fait il désignait un petit peu tout le parapluie des identités LGBTQIA+, et pour moi c'était très important, parce que en ayant grandi en tant que garçon gay, puis ensuite en m'étant senti plus pansexuel, c'est-à-dire que j'étais ouvert en fait à tous les genres, mon cœur battait pour tout le monde, je me suis dit que je ne pouvais pas être juste contenu dans une seule identité. Et puis ensuite mon genre a évolué, du genre masculin je suis passé à plutôt un genre neutre, et puis ensuite à un genre féminin. Sauf que parfois je reviens à ce genre neutre. Donc j'ai besoin en fait d'évoluer, j'ai besoin de pouvoir voler entre ces différents termes, entre ces différentes identités, et c'est pour ça que je pense que le terme queer est vraiment le terme parapluie pour toutes ces identités entre lesquelles je vole, au final.
I wanna be soft like Iris, paint myself in anamorphosis, much bigger than this. C'est pas ça. Non. I wanna be...
Peut-être avec ça. Sorry. C'est un long parcours de se laisser pousser les cheveux, ça fait déjà 3 ans que je les laisse pousser, sauf que mes cheveux poussent très lentement. Et donc là, ça fait 2-3 mois que je les considère vraiment comme longs, où ils m'arrivent vraiment au milieu du dos. Et c'est un bonheur que je n'aurais jamais pu imaginer avant. C'est-à-dire que c'est se voir également d'une manière... C'est un rêve que j'avais quand j'étais petite, d'avoir les cheveux longs. Et maintenant, c'est les avoir sur ma tête, c'est ne plus utiliser ce torchon blanc qui m'a tant servi, et les avoir en vrai, c'est tout à fait inimaginable, et c'est source d'une grande joie pour moi. Cette chevelure qui est la mienne, j'en prends soin, et je prends soin de moi, je prends soin de mon identité, de ma transidentité, et j'en suis fier, et je l'aime, et je vois qu'elle pousse, et bien moi aussi je grandis, moi aussi je fleuris, et je vais continuer à fleurir, et je vais continuer à me découvrir, et je vais continuer à voler dans cet univers qui est si flamboyant et si beau.
I wanna be soft like Iris, paint myself in metamorphosis, a dream of much bigger than this. I wanna see you right beyond my chrysalis. I wanna be soft like Iris, paint myself in anamorphosis.
Ouais.
Bonjour.
Bonsoir. Il est quelle heure ?
22h46.
Ok. Ça va, j'ai une heure pour me maquiller.
Est-ce que tu aurais de la colle à paillettes par hasard ?
Ouais, j'ai une espèce de cire. J'ai ça.
Ah, je mets juste.
Ouais, voilà, tu peux soit prendre avec un pinceau si tu veux être genre précise, mais sinon, tu peux juste aller au doigt ou même directement.
Oh, t'inquiète, je vais prendre.
Avant un show, quand je me prépare, il y a plusieurs outils que j'utilise. Bon, déjà, il y a le make-up, ce qui est hyper visible. Donc, j'utilise, on va dire, le contouring, donc le fait de restructurer son visage avec des zones d'ombre et des zones de lumière,
pour faire ressortir certains de mes traits, donc ma mâchoire, mon front, mes pommettes, etc. Je vais aussi utiliser beaucoup de paillettes. Je sais que moi j'utilise aussi des espèces de scotch noir pour faire des croix sur mes tétons. J'aime bien ça parce que c'est à la fois quelque chose qui, entre guillemets, attire le regard, parce que du coup il y a quand même un élément très esthétique sur cette partie de mon corps, et à la fois une croix c'est comme si je les annulais. Moi j'aime bien cette idée d'annuler tout en mettant en valeur, entre guillemets, parce que ça mindfuck un peu tout le monde, enfin ça perturbe.
Et là je suis très fière et heureuse, je vous laisse découvrir cet artiste, il s'appelle Power Potter aussi.
Bonsoir.
J'ai découvert le drag donc il y a un peu plus de 2 ans en lisant le livre de Paul Preciado, Testo Junkie. C'était ici à Paris, j'étais chez moi, je pense que je faisais une insomnie. Du coup je terminais le livre et en fait à la fin du livre il y a un passage sur les drag kings, enfin où Paul Preciado présente à la fois sa propre pratique à lui, donc comment il a découvert le drag king, il me semble à New York à la fin des années 90, et comment il l'exporte au début des années 2000 en France. Et il présente un peu, si je me souviens bien, le drag king et les outils qui accompagnent du coup cette pratique-là comme des technologies du genre, et donc comme des outils dont on peut se servir pour en fait construire notre propre genre et pour performer le genre opposé, etc. Et en fait, j'avais jamais entendu parler de drag ou de drag king avant. Et du coup, quand j'ai lu ça, j'ai eu une explosion dans mon cerveau. J'étais en mode, oh mon dieu, mais en fait, ça a l'air génial, faut absolument que j'en fasse. Du coup, je suis allée voir sur la programmation de La Mutinerie, qui est un bar queer féministe à Paris. J'ai vu qu'il y avait un show drag king le lendemain, et j'ai décidé d'y aller. Donc j'ai vu le show, et pareil, ça a été une deuxième explosion. J'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là, un peu comme une sorte de révélation où quand j'ai vu les gens sur scène, en fait, dans mon cerveau, c'était genre hyper clair, c'était « je veux faire ça » et « je vais faire ça ». Et je crois que le lendemain, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail et j'ai demandé à performer. Du coup, mon premier show drag, c'était en novembre 2021. Et c'était assez impressionnant de performer sur la scène de La Mutinerie pour la première fois, parce que c'était aussi la première fois que je me retrouvais devant un public totalement queer. Et d'ailleurs, que je me retrouvais sur scène pour faire du drag, pour faire autre chose que seulement de la musique. Et à la fois, c'était tellement euphorique et euphorisant que du coup, je me suis tout de suite sentie chez moi, quoi. Que ça soit à La Mutinerie ou sur scène, et avec les autres drag kings, avec le public queer, etc. En gros, ce que je voulais exprimer ce soir-là avec cette première performance, je pense que c'était une première étape de construction de qui je suis maintenant, en tant que performeur, mais aussi dans ma vie de manière générale. C'est-à-dire une personne queer, une personne transmasculine, donc qui joue avec les codes de la masculinité, mais tout en s'appropriant certains codes de la féminité. C'était un premier, on va dire, une première expérimentation de ce à quoi je voulais ressembler. Puis je pense que j'avais envie d'exprimer de la joie, quoi. Enfin, l'euphorie queer, la joie de se chercher, de se trouver aussi, mais aussi d'expérimenter. Je pense que c'est ça aussi qui est hyper euphorisant.
Les autres chansons seront peut-être un peu plus calmes, mais d'accord. Du coup ça sera bon, quoi.
Ouais, je suis ravi.
Mon but, c'était d'avoir un passing au début quand j'ai commencé le drag. Donc le passing, c'est juste le fait de passer, entre guillemets, dans un genre ou dans l'autre. Par exemple, si je vais dans la rue et qu'on m'appelle monsieur, ça veut dire que j'ai un passing d'homme. Et du coup, mon but au départ, c'était plus d'atteindre une genre de passing que ensuite j'allais queerifier, en gros, ajouter des éléments queer à cette apparence que les gens décodent comme masculine. Donc comme des paillettes, le choker, des tissus transparents, etc. C'était aussi une sorte d'expérience et de laboratoire du genre pour moi. Et c'était aussi pour répondre à des questionnements de genre sur est-ce que j'ai envie d'être perçue comme un homme absolument, est-ce que je suis bien dans une espèce d'entre-deux très queer, est-ce que je me plais, est-ce que j'ai envie d'aller vers là aussi pour mon quotidien entre guillemets. Et du coup c'était lié à des questionnements de genre plus profonds, évidemment, à est-ce que j'ai envie de prendre de la testostérone ou non, est-ce que j'ai envie d'entamer une transition on va dire officielle, ou est-ce que j'ai envie de faire un peu mes expériences en pirate. Tout est dans le power bottom, tu vois. Power, c'est la fête, c'est le drag, c'est le chaos. Le bottom, bah, c'est la fragilité, la vulnérabilité, le fait d'être fragile au fond de soi-même, tu vois. C'est à la fois un jeu de mots, une connotation sexuelle, une référence à la culture gay, un nouveau prénom aussi. Et être fragile, entre guillemets, ou vulnérable, et être hyper flamboyant et hyper fort, c'est pas incompatible. Et c'est parce que je suis ça d'un côté que j'arrive à être... à l'autre côté aussi. Oh mama, please don't fall before me. I'm too scared, I couldn't tell you who I wanna be. Le drag, ça m'a permis de construire ma queerness. Le drag, ça m'a permis d'expérimenter des masculinités et de voir lesquelles me plaisaient et lesquelles je voulais, on va dire, adopter au quotidien. Et de l'autre côté, ça m'a permis de régler les comptes que j'avais à régler avec la féminité. Ça m'a donné un espace pour expérimenter tout ça. En termes d'expression de genre et de type de féminité et de masculinité que j'ai expérimenté et que j'ai proposé sur scène, c'était à la fois des masculinités, on va dire, gays, pédées, flamboyantes, et des féminités pardon, qui sont violentes et badass. Et en fait, j'ai compris que moi, c'était un peu mes deux instances de masculinité et de féminité préférées. Et c'est aussi celles, en fait, avec le recul, qui ont constitué mon expression de genre et mon genre au cours de ma vie, en fait. Et voilà, j'ai terminé. C'était la touche finale, là. J'aime bien mêler à la fois des trucs hyper esthétiques, j'aime bien, je fonctionne souvent en termes de... Je prends une ou deux couleurs et je travaille avec. Le but, c'est de, à la fin, rendre un truc un peu confusant pour les gens. Mais du coup, ouais, c'est marrant, la dernière fois, il y avait un mec qui était venu me parler et qui était en mode, mais du coup, de base, toi, t'es quoi? En fait, je comprends pas trop. Et du coup, il arrivait pas à savoir si j'étais un mec qui... faisait des trucs féminins ou faisait des trucs masculins, il savait pas trop d'où je venais, où je voulais aller. En tout cas, c'était le bordel et moi, je lui ai dit, bah voilà, c'est ça mon genre. Le bordel. J'avais pas envie que le genre soit que une contrainte, que une souffrance, que des incompréhensions. J'avais aussi envie que le genre, ça soit... un espace de joie, un espace d'euphorie, un espace d'expérimentation et un espace aussi où je pouvais connecter avec les autres. Et du coup, c'est à travers la culture queer et à travers les scènes drag king que moi, j'ai pu trouver tout ça. On propose de se réapproprier le genre pour en faire un espace de libération. Parce qu'on peut pas le faire disparaître, le genre, il est là. Du coup, autant prendre tout ce qui nous plaît, faire un gros fourre-tout, expérimenter ce qui nous plaît, et en fait célébrer le fait que chez nous c'est un peu le chaos, mais qu'en fait c'est hyper stylé, quoi.